9. Chaque dimanche, à chaque dimanche de 10 mois, ce qui est fini, je te réponds par comment je vais. Ici, assise, au bureau, à la maison, à l'hôtel, au restaurant, dans le métro, à l'hôpital. Ou quoi ça, avec ou sans ma page, sur les conseils d'un ami, d'un critique, d'un auteur, des gros volumes, des opticules, comme un classique, Anime, Ricois, Vicky, Otto, Vicky, voilà le premier chapitre Spirit, that we'd be a solid enough to keep you from the flow of your energy. Jeff? The flow of your energy. Jeff? The flow of your energy. The flow of your energy.
Thank you. de temps, c'est bien, et c'est un moment qui dénonce la situation extravagante qui se passe au Cameroun, et qui présente la France comme une autre planète, je pense que l'homme. Et donc, aussi que la France est un responsable pour sa volonté, sa culture, et sa restauration au nom de l'homme de l'homme.
Voilà, William Edouard, que nous recevons aujourd'hui à la Libre. William Edouard, qui est un spécialiste sur la carte des droits d'auteur. Il travaille en fait, il travaille au droit d'auteur, il est consultant. Eh bien, en tout premier lieu, William Edouard, comment
le plaisir. Bon, la définition ne sera pas une définition.
s'approprier l'œuvre de l'autre sans mentionner, sans avancer le temps. Parce que le sort, il y a plagiat. Ça veut dire, vous signez une œuvre qui ne vous appartient pas. Vous inspirez, on va dire, majoritairement de l'œuvre de l'autre pour vous donner le titre du crédit. Et quand ça arrive, on parle nécessairement de plagiat. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y a plagiat, on va voir qu'est-ce qui est le beau, qu'est-ce qui n'est pas le beau. Et quand on constate que la majorité de ce que vous présentez en tant qu'œuvre propre à partir le prix de. Du travail de quelqu'un d'autre, on dit qu'il y a plagiat. C'est simple que ça.
Donc, c'est en fait sur le plan juridique, d'utiliser le terme plagiat, mais ce n'est pas votre utilisation.
Bon, on va dire en voie d'auteur, le plagiat, ce n'est pas quelque chose de condamnable, parce que c'est beaucoup. Celui qui plagie, vous le connaissez avoir plagié, il y a des œuvres littéraires qui s'y prêtent, quand on a la parodie par exemple, c'est plagiat. Alors, non, quand on dit du plagiat, mais c'est plutôt une utilisation, un détournement de l'œuvre originale, on va dire ça comme ça, et le droit d'auteur ne condamne pas le plagiat. Parce que souvent, celui qui plagie ne s'intéresse pas. Quelqu'un qui parodie l'œuvre de quelqu'un d'autre, il le fait expressément, il le fait nourriment, il le fait sans avoir à le nier. Mais ce qui différencie le plagiat de la contrefaçon, c'est quelqu'un qui s'approprie l'œuvre de quelqu'un d'autre et sans vouloir le reconnaître. Donc, quelqu'un qui fait du plagiat, il ne voit pas une faute. L'auteur, parce que souvent le plagiat est assumé. Non, c'est pas parce qu'on cite ses sources qu'on ne plagie pas. Plagier, ça veut dire que c'est un détournement de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc, quand vous parodiez une œuvre, ça veut dire que vous vous inspirez majoritairement de l'œuvre de l'autre pour faire une œuvre nouvelle, parce que la parodie, c'est une œuvre de création. Donc, tout à fait, traduction, traduction. Pareil, pour le traduction. Maintenant, si l'œuvre est un sphère de matière première pour la création d'une œuvre, une nouvelle œuvre, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas, on va dire,
c'est pas condamnable,
c'est pas un cas qui est tiré, on va dire, par le doigt d'auteur.
Donc, si je comprends bien, et pour les auditeurs qui nous écoutent, le plagiat, le terme plagiat, ça relève bien de la propriété intellectuelle.
Oui, tout à fait, c'est comme la division. C'est des concepts qui sont passés en droit d'auteur et ceux qui le pratiquent ne sont pas punis par le droit d'auteur. Ils ne sont pas du tout royaux.
Et sur le plan littéraire, par exemple, juste avant d'arriver là, on dit que le plagiat, c'est l'emprunt par un auteur d'un fragment significatif ou de la pensée de l'autre. Cela veut dire qu'il ne suffit pas de s'inspirer d'une œuvre scientifique et tout, ou encore de reprendre une partie d'un texte, d'une œuvre. Il peut s'agir aussi de la pensée même de l'auteur. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir que ça, c'est de la pensée de tel auteur? Ça, c'est pas original. Hein?
Bon, plusieurs choses. Tout d'abord, je m'arrête au terme en point significatif. C'est-à-dire, c'est ce que vous deuxième chose, c'est que pourquoi vous décidez de la pensée de l'auteur. Là, quand vous décidez de la pensée, c'est plutôt une interprétation de la thématique que l'autre a développée. Donc, on va l'auteur, on peut être 10 à écrire sur le thème de la mer, on peut être 1 million à écrire sur le thème de la révolution,
encore de la dictature.
La dictature, ça ne pose aucun problème, parce que le droit d'auteur, il protège, en fait, il protège l'œuvre originale. Donc l'originalité a deux aspects. Il y a l'originalité absolue, c'est-à-dire ce que vous créez et n'a jamais existé avant que vous l'ayez créé. Et il y a l'originalité relative, ça veut dire quelque chose dont vous n'êtes pas le seul créateur. Donc quand on écrit sur les termes de la passion, eh bien, le premier, on n'est jamais le premier à parler de la passion. Donc là, c'est pour ce qui pour le droit de l'homme. Ce qui compte, c'est l'exploitation personnelle, l'appropriation personnelle. C'est la petite chose que vous mettez qui donne au terme un caractère personnel qui est propre à vous. Donc c'est ce qui compte pour le droit d'auteur. Donc c'est pourquoi on peut être plusieurs à faire, faire la même chanson, le même terme, mais c'est pas ce qui fait que on soit sanctionné ou on soit condamné pour autant. Ce qui est important, c'est de savoir maintenant tout le monde est libre d'apporter de qui l'on veut. Mais par contre, est-ce que ce que vous empruntez peut porter préjudice au premier auteur? On va dire ça comme ça, parce que c'est ce que un droit d'auteur, c'est ce qu'on peut essayer d'identifier quand il y a deux auteurs qui traitent le même terme, ou bien qui font la même œuvre. Donc, ce qui compte pour les auteurs, ce n'est pas la thématique. Parce que la thématique, c'est comme l'idée. On peut avoir tous la même idée, mais on ne va pas l'exploiter de la même façon. Donc, c'est cette singularité-là qui fait office de règle en droit d'auteur. Deuxième élément, c'est que en droit d'auteur, quand on va parler de plagiat, c'est pas la thématique. La thématique, oui, mais on va surtout s'arrêter sur les structures. En fait, quand on copie une œuvre, c'est la structure qui va compter. C'est les intrigues, c'est l'évolution des personnages, c'est l'organisation, c'est ce qui va être pris en compte en fait. Donc, si vous empruntez l'organisation, vous empruntez la thématique, les personnages, là, on va faire l'inventaire de tout ça. Et à partir de ça, donc, si la structure de l'œuvre première se répète, on va dire littéralement dans votre œuvre, là, on va faire le décompte est fait.
C'est par là que le droit d'auteur, tout à l'heure, vous avez dit que le droit d'auteur protège l'œuvre. Quand il apporte tout ça, c'est la question de la production. Cette œuvre-là, ici, elle appartient. Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est un éditeur? Est-ce que c'est une production? Est-ce que c'est un éditeur?
La loi ne protège pas l'auteur, la loi protège l'œuvre. L'article 3 du décret du 19 octobre 2005. Et l'œuvre est protégée du seul fait de sa création. C'est la création qui donne une protection à l'œuvre. Même une œuvre inachevée est protégée par la loi. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, si la protection confère des droits, génère des droits celui qui a créé. Donc, quand vous créez une œuvre, la loi protège l'œuvre, et de cette protection, vous en créez un ensemble de droits. Les droits, c'est quoi? C'est tous les usages possibles auxquels l'œuvre peut être confiée. Donc, on va prendre l'exemple d'un manuscrit qui va devenir un livre. Donc, c'est un usage. Le manuscrit peut être adapté à l'écran. L'usage, le manuscrit peut être traduit, l'usage, le théâtre aussi, bon,
théâtre, ou bien de public. Donc, il y a tout ça.
Donc, les droits appartiennent en premier à celui qui a créé l'inventeur. Maintenant, tous les autres, ils veulent, selon leur spécialité, selon leur métier, selon leur choix aussi, et faire un usage quelconque de l'œuvre de l'auteur, ils doivent avoir l'autorisation de l'auteur. Ça veut dire quoi? L'éditeur de la ligne, il accepte les droits.
Peut-être qu'il s'agit d'un message privé au public, il faut voir l'auteur.
Non, pas pour les usages privés. La loi
est en droit de livre automatiquement, il est en circulation, il peut être acheté, être lu. Donc on n'a pas besoin d'avoir des droits pour lire le texte ou encore le papier à un ami, le mettre dans une bibliothèque, tout ça.
Exactement, le livre est une petite oui. Donc, la loi, c'est une question, ça veut dire que tant que vous faites un usage privé personnel, la loi n'entre pas en ligne de compte. La loi entre en ligne de compte quand il s'agit de, en cas de, d'usage public ou commercial. Public, autre, autorisé pour le service public, et si c'est un usage public pour la commission de l'Université, il faut aussi avoir l'autorisation de l'auteur. Donc c'est comme ça que c'est la question qui se présente, donc à quel point c'est l'heure.
Et l'autorisation de l'auteur, c'est que souvent l'éditeur aussi est impliqué dans la scène. Est-ce que c'est seulement l'auteur qui va décider si on doit adapter l'œuvre ou pas?
Bon, est-ce que c'est l'auteur qui doit décider si c'est l'auteur ou si c'est l'œuvre? C'est l'auteur, c'est un lecteur qui souhaite faire un nouvel article de l'œuvre, de la littérature. Vous avez lu un roman qui est intérieur, vous êtes obligé d'adapter au théâtre, vous avez trouvé les valeurs d'adaptation théâtrale. Vous êtes un réalisateur, vous dites vous plaire, vous auriez pu l'adapter à l'écran, vous avez les droits d'adaptation cinématographique. Donc vous êtes traducteur aussi, donc vous estimez que ce livre doit être lu en créole, puisqu'il vous permet d'écrire en français. Donc, ça veut dire quoi? Un éditeur, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il étudie son marché. Si c'est un marché de la traduction, il a ses droits de traduction. Si c'est un marché de livres simples, il a ses droits de reproduction qui lui permettent de déclamer le livre. Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites comme entrepreneur culturel? Vous suivez votre marché et pour votre marché, vous êtes l'inventaire des droits potentiellement exploitables, vous les achetez. Malheureusement, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Mais les éditeurs se contentent de publier sans exploiter d'autres opportunités. Et bon, voilà, donc ce qui fait que le livre devient de l'œuvre et le livre devient monoproduit en réalité.
Ce qui n'est pas trop intéressant pour l'œuvre, voire même l'auteur. Il n'y a pas de. En fait, les éditeurs, vraiment, ils se comportent comme des éditeurs de publier.
Malheureusement. C'est déjà, on va dire, c'est l'étape initiale. C'est la porte d'entrée en littérature pour l'auteur, mais c'est la porte d'entrée aussi à des possibilités de gagner de l'argent. Maintenant, les possibilités sont immenses, mais pourquoi se contenter, se limiter à une seule et unique possibilité d'affaire? Pour moi, c'est une attitude de trop, pas du tout intelligente de la part des éditeurs. Maintenant, c'est vrai que c'est un pays a constitué, on va parler de l'âge analphabète, mais en fait, en Haïti, le taux d'analphabétisme est assez élevé. Ça veut dire le livre a été. Le livre haïtien n'a pas un marché immense, le livre haïtien a un tirage aussi, ce tirage est réduit, donc le tirage moyen va rarement au-delà de 1000 exemplaires, et on peut voir le volume de vente, ça va rarement à 500 exemplaires,
intervenir, c'est un homme qui ne se vend pas. Forcément marqué. Maintenant, pourquoi ça peut marquer? C'est parce que les visiteurs ne font pas leur boulot. On peut le dire comme ça. On voit quelques exemples. Si vous regardez les statistiques qui sont publiées à l'occasion des examens officiels, le lectorat potentiel est énorme. Si on fait le décompte, c'est un lectorat qui avoisine le million de lecteurs. Alors pourquoi, depuis des décennies, les éditeurs, bon, on va dire par paresse entrepreneuriale, se contentent de faire 1000 livres? Bon, d'abord c'est contre-productif. Pourquoi? Parce qu'on est dans une économie qu'on appelle économie d'échelle. Plus vous en faites, moins ça coûte. Moins vous en faites, plus ça coûte. Pourquoi choisir de payer plus dans un pays où le pouvoir d'achat est dérisoire? Il faut faire des livres pour les vendre à un prix abordable, ce n'est pas un prix abordable, c'est un prix qui tient compte de la réalité du pouvoir d'achat. Quand vous vendez un livre à 250 $, combien d'haïtiens qui se permet d'acheter un livre à 250 $? C'est tout. Donc, ce n'est pas rentable pour l'auteur, qui ne va pas vendre beaucoup. Ce n'est pas rentable pour l'éditeur, qui ne va pas rentrer dans ses frais. Donc, on est en train de financer, si vous voulez, un déficit structurant. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux. Alors, comment élargir le marché? Il faut travailler à partir de données. Les chiffres officiels, comme il n'y a pas de statistiques sûres, fiables, on va prendre les gens qui vont au baccalauréat. On va prendre les gens qui vont aux examens officiels. Deuxième année fondamentale, RITO, ILO. Certificat, c'est des classes de lecture. Deuxième année fondamentale, c'est des classes de lecture. RITO, ILO, c'est les humanités. Ça veut dire, on a un bassin de lecteurs important maintenant. Comment arriver à ces lecteurs-là? C'est le boulot de l'éditeur, c'est pas le boulot de l'auteur. L'éditeur doit apprendre à construire la notoriété de l'auteur. L'auteur doit apprendre à éduquer le lecteur potentiel. Ça veut dire qu'on ne devient pas lecteur par accident. La lecture, c'est une pratique. La lecture, c'est une culture. La lecture, c'est comme ça que ça se fait. Donc, dans tous les autres pays, l'éditeur ne se contente pas de publier et d'aller vendre. Non, l'éditeur participe à la construction de son marché. Donc, qu'est-ce qui est important pour l'éditeur? C'est de vendre beaucoup de livres. Ce n'est pas d'avoir un catalogue, mais c'est de vendre beaucoup de livres. Quand vous vendez beaucoup de livres, ça a un impact important et intéressant sur votre chiffre d'affaires. Donc, si un auteur peut vendre 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 livres, qu'est-ce qui va se passer? Il s'intéresse à son passion qui est l'écriture. Aujourd'hui, les arts en général en Haïti sont face à ce qu'on appelle à une déperdition permanente. Pourquoi? On est écrivain dans son jeune âge, et comme ça nous y passons normalement, on va faire autre chose, et puis on laisse tomber l'écriture. Et c'est pareil pour les pratiques plastiques, c'est pareil pour les pratiques musicales. Donc là, il y a nécessité, c'est vrai, l'éditeur n'est pas seul responsable. Il y a le boulot du ministère de la Culture qui doit construire l'économie de la culture.
Et de l'éducation aussi. Puisque là, tout à l'heure, vous avez parlé des classes humanitaires et des troisièmes, du deuxième année qui sont, et il y a des classes de lecture.
Bon,
on a des potentiels lecteurs.
Bon, si tu permets, si vous permettez, l'éducation nationale ne s'adresse qu'au manuel. Mais aujourd'hui, un livre littéraire, s'il fait partie du programme officiel, il y a un manuel. Pourquoi ne pas recenser un certain nombre d'écrivains qu'il faut absolument que la jeunesse lise et faire rentrer ces livres-là
dans le programme
officiel. Et d'office, ils deviennent manuels scolaires, et à partir de là, les éditeurs de ces ouvrages-là peuvent espérer avoir un marché intéressant dans la mesure où la communauté scolaire est assez importante et là, de grandes perspectives pour les sauver à la fois pour les éduquer et à la fois pour
Israélites, pas seulement les étaient au cœur qui écrit, mais aussi les colliers. Puisque si ces textes-là sont dans son programme, le programme officiel du ministère, et que ces livres-là ne sont pas lus, et ne sont pas disponibles dans les bibliothèques de l'école ou ne sont pas dans les bibliothèques. Donc, s'il y a toute une politique au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et mettant l'accent sur la nécessité que les textes soient non seulement disponibles, lus par les professeurs et les enfants, et ça peut aussi contribuer à améliorer considérablement les centres de parenthèse et les résultats des examens du bac, parce que certaines matières, pas seulement les examens du bac, mais les examens et qui se font à l'éclat également.
Certainement, la connaissance passe d'abord par la langue. La langue, on apprend.
Et dans les livres, c'est la culture.
On aussi par la
lecture.
Par la lecture, heureusement. En tout cas, ce qui est important, quand on dit aux éditeurs ici, sur quoi portent les transactions de l'éditeur? Malheureusement, en Haïti, c'est sur la vente de l'exemplaire. De l'exemplaire, c'est l'affaire du détaillant qui est le ce n'est pas le métier de l'éditeur. L'éditeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des transactions avec des droits. Maintenant, comment donner de l'importance aux droits que vous avez acquis? Il faut construire la notoriété des auteurs qui font partie de votre catalogue. Comment construire la notoriété? Agir pour influencer, on va dire, le marché du livre, les politiques publiques en matière d'édition. Quels sont les problèmes en Haïti? Là, je pense qu'il y a du boulot pour la distribution du livre, il faut construire un réseau national de distribution. Ça veut dire, il faut qu'il y ait des bibliothèques, pas des bibliothèques, des librairies partout dans le pays. Donc vous allez. Dans la deuxième ville du pays, il n'y a pas de librairie. Vous allez dans n'importe quelle autre ville en Haïti,
en
dehors de Port-au-Prince, qu'est-ce que vous allez? Vous avez des coins livres. C'est quoi un coin livre? C'est une quincaillerie dans laquelle il y a une partie des étagères sur laquelle on dépose des manuels. Et dans la pièce qui avoisine la rue des Portes.
Comme ça se passe, et même en Port-au-Prince, comme ça se passe. Et ici aussi, quand on s'avance vers la rentrée des classes, quand on s'avance vers octobre, et bien on va faire la pause de nuit avec une façon de d'examen, les enfants, les victimes, les centres américains, et je vais vous inviter à écouter. Donc, les d'Axon, en fait, les titres, le principal titre éponyme de l'album, a été sorti en 1962. Donc, les d'Axon. You kiss me and you walk away. don't play that song, don't play that song. Baby, you know that you lie. Ne recoupe plus pas. Donc, il y a des droits sur réglementer la question de l'œuvre, c'est ça. Et il faut faire attention au plagiat, il faut faire attention à la contrefaçon. Et puis, c'est aussi valable pour les autres formes d'art, les autres formes de création comme la musique. Mais aujourd'hui, on parle de littérature, on parle de plagiat. Et la question du départ, à qui appartient une œuvre littéraire qu'on reçoit, je le rappelle, Willems Ivoire, qui est spécialiste de la question, consultant au bureau haïtien du droit d'auteur. Avant la pause, Willems, on était en train de parler de questions de l'édition, toujours dans la question de plagiat, de droit. Maintenant, on a parlé tout au début. Du droit d'auteur, droit et encore des éditeurs. Maintenant, puisque l'œuvre, vous l'avez dit au départ, appartient à l'auteur, maintenant, où se situe le droit de l'éditeur? Comment séparer les droits de l'auteur du droit de l'éditeur?
Il n'y a pas à séparer, puisque les droits appartiennent en totalité à l'auteur initialement. L'éditeur a le droit de jouissance. Comment l'obtient-il? C'est en acquérant les droits de l'auteur. Avec le rôle de faire un livre, vous avez les droits qui vous autorisent à publier ce livre, à transformer ce manuscrit en livre. Maintenant, à partir du moment où vous avez les droits, qu'est-ce qui vous laisse passer là? Il vous reste à rentabiliser les droits que vous avez acquis. Et comment les rentabiliser? Dans la autorité de l'auteur. Dans la autorité de l'auteur, parce qu'un auteur inconnu n'a pas de valeur. Je ne parle pas de la valeur de l'œuvre, c'est-à-dire commercialement.
C'est une valeur d'échange.
Valeur d'échange. Donc, ça veut dire un auteur peut devenir. Un auteur peut avoir. Peut. Comment dire ça? Ok. Vous voulez le livre d'un auteur. Si vous vous contentez de placer des livres en librairie, bon, peut-être que l'éditeur s'est appelé à l'éditeur, c'est comment? D'abord, ça veut dire, quand vous faites un livre, quelqu'un qui est à Jérémy, qu'est-ce qu'il va faire si vous voulez acheter le livre que vous avez publié? Il va prendre un camion, venir à Port-au-Prince, aller dans une ou deux librairies qui existent dans la ville, pour acheter le livre? Non, il va pas faire ça.
Pour apporter le livre.
Non,
il faut aller chez le livre.
C'est ça le sens du réseau. Il faut développer un réseau de distribution. Réseau de distribution, réseau de librairie, réseau de bibliothèque, parce qu'en fait, la bibliothèque a un rôle prescripteur. On apprend à lire à la bibliothèque, on apprend à lire à l'école, on apprend à lire à la maison, et entre amis, pour le commande des livres, et on va acheter un livre qu'on a lu à la bibliothèque, on va acheter un livre qu'on a lu à l'école, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'éditeur doit d'abord identifier son marché, il doit le développer. Maintenant, sur ce marché-là, comment construire la notoriété des auteurs qui sont partis de son catalogue? Parce que ça, c'est un livre. Maintenant, un des éléments qui permet à l'auteur d'avoir une autorité, c'est la construction des mécanismes de reconnaissance. Comment reconnaît-on la qualité d'écrivain à un individu? C'est la question que l'auteur doit se poser. Comment contribuer à faire connaître celui qui est publié chez moi? Ça, c'est des questions que l'éditeur doit se poser. Donc, maintenant, les mécanismes de reconnaissance participent du succès de l'écrivain. C'est important. Un écrivain qui a reçu le prix important par beaucoup de livres. Donc, comment construire des mécanismes de reconnaissance? Donc, à partir du moment où, et c'est des instances de légitimité, à partir du moment où cette distance de légitimité travaille, eh bien, les possibilités pour un auteur de se faire découvrir, de se faire connaître et de s'imposer existent. Mais plus un auteur est reconnu par la qualité de son travail, par la qualité de ses interventions, par son mode de vie aussi, il y en a tellement bien aussi dans la question. Donc, eh bien, le marché qui gravite autour de quand un étudiant commence à le dire en termes de marché, il y a plein d'autres entrepreneurs qui sont intéressés à ce travail. Des producteurs de cinéma vont s'intéresser à ce travail, d'autres éditeurs vont s'intéresser à ce travail pour traduire cet auteur. Donc, malheureusement, en Haïti, les gens sont contents d'imprimer et de passer en anglais. Voilà.
Donc, c'est un problème qui est le droit. C'est ça.
Il y a tout, il y a pas tout, parce que l'éditeur c'est aussi un auteur, c'est quelqu'un qui produit, qui écrit, c'est un travail qui édite, c'est un plus, c'est un travail dans l'ombre.
D'accord, on va séparer. Il y a le travail de l'écrivain et il y a celui de l'éditeur. L'auteur fait ce qu'il fait en avant. En avant, dans sa chambre, dans son bureau, dans sa toilette, là où il est écrit, il mange sur son papier. Il intervient en deuxième année. Donc, ce n'est pas un projet d'écriture, c'est un projet graphique. Un projet graphique. Parce que le livre de l'éditeur a une graphie particulière. Et le livre de l'éditeur a un format particulier. Le livre de l'éditeur a une pagination singulière. Donc, il est perdu non pas sur l'œuvre, il est perdu sur le support. Certes, il y a un travail de réécriture qui peut être fait parce que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Il y a un travail sur l'écriture qui peut être fait parce que la qualité de l'écriture de l'auteur n'est pas tout à fait au point. Il y a un travail de réécriture qui peut être fait parce qu'il faut l'adapter au lectorat de l'éditeur. Mais ce n'est pas nécessairement l'éditeur qui fait ça, il peut commander ce travail. Les nègres sont là pour ça. Donc, l'éditeur n'intervient pas. Là, on fait référence à l'éditeur, on va dire, en disant, c'est tout. Non. Les deux tâches sont nettement séparées. Certainement, il y a un travail de création, un travail de l'édition, mais ça ne génère pas de droits. C'est ça la question. Donc maintenant, l'éditeur, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un produit. Il n'a pas un projet d'écriture, il a un projet de livre-produit. Donc, comment faire en sorte que mon produit soit le plus proche possible du lecteur potentiel que je cible ? C'est ça la question de l'éditeur. Donc, c'est pourquoi il va adapter la graphie, il va adapter le format, il va adapter
la qualité.
Sans aucun doute, l'arrangeur le fait pour le compositeur, problème, c'est pas de l'argent au terme de la proposition.
Mais il y a quand même une question que doit mettre. Si on revient au sujet de la question du plagiat, maintenant, quelqu'un qui fait un texte, un commentaire du texte, une critique, il dit que le droit dans l'éducation, il dit ce qu'il dit, hein, du certains passages du texte en question, hein, du texte sur lequel il fait la critique. Comment est-ce qu'il doit procéder pour citer les citations, les notes, les passages, comment ça se passe quand on arrive dans le cadre?
Bon, le droit de l'auteur comporte des limites. La loi impose des limites au droit de l'auteur. Donc, la citation est légale. Alors, quand est-ce que la citation est légale? La citation, on va se poser. Si on est critique, si on est universitaire, si on est scientifique, si on doit citer le texte de l'autre. Eh bien, la première chose qu'on peut mettre en tête, c'est que ça ne doit pas dispenser d'aller lire le livre original. Le livre d'où vous avez tiré la citation. Ça veut dire que la citation ne fait pas confiance à l'œuvre première. Deuxième élément, la citation doit avoir une valeur d'illustration. Donc, ça répond à un objectif d'argumentation. Donc, vous voulez exemplifier. Vous les illustrez, donc vous faites appel à la parole de l'autre, à l'opinion de l'autre, aux arguments de l'autre, à la pensée de l'autre, pour étayer l'âme de votre thèse.
C'est ça.
Ça ne va pas venir.
Maintenant, il y a une façon de citer. Parce qu'on ne peut pas citer, comme vous l'avez dit, bon, parce que ça ne doit pas dispenser le lecteur d'aller vers. L'œuvre, le domaine,
l'initial.
Non, si c'est cité, on ne peut pas tout citer. Il y a une certaine quantité de mots, de phrases, de
paragraphes. Une dizaine de lignes, c'est loin.
Une dizaine, c'est.
On va dire globalement, c'est une dizaine de lignes. Bon, maintenant, il y a, ça dépend du culture. Il y a des gens. Si on veut citer ces livres-là, le risque d'aller au-delà d'une dizaine de lignes existe. Parce que quand on cite, la chose doit avoir un sens.
Donc, oui. Pas tellement tout le passage,
vous voyez, tout à fait. Parce que,
voilà, avec une longue phrase.
Comme vous citez, il faut citer le nom de l'auteur, il faut citer le nom de l'œuvre, il faut citer aussi
la
date de parution, etc. Non, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que vous faites, comment dire ça,
abusive.
Non, pas abusive, mais de façon. On ne fait pas ça et. Avec les façons de cacher qu'on a tirées de l'œuvre ou de l'autre. Bon, maintenant, ça ne pose aucun problème que le site, la fonction, dans la mesure où ça sert l'intérêt de l'argumentation que je développe, de la pensée que je développe, donc ça justifie que je fais intervenir notre auteur. Donc la loi ne punit pas ça. Donc il y a des limitations qui sont posées au auteur, justement. C'est au nom du droit à la culture, c'est au nom de la liberté d'expression, c'est au nom aussi du droit de critiquer, parce qu'on peut, comment dire, pour critiquer le droit, je dois pouvoir le citer, je dois pouvoir démontrer en quoi, pourquoi je suis d'accord, pourquoi je ne suis pas d'accord, pourquoi quelqu'un ne veut pas d'accord pour moi, pourquoi ça ne fait pas pour moi, donc je dois pouvoir
le citer. Voilà, tout ça relève de la méthodologie.
Non, l'État n'intervient pas, c'est la loi. Non, la loi. Bon, c'est la loi de la partie qui doit leur porter. accusé de plagiat. Que les avocats vont tenter de faire, ils vont tenter de voir d'abord, est-ce que là, c'est une caricature que vous faites, est-ce que c'est une parodie que vous faites, est-ce que c'est une réappropriation que vous faites. Non, si ce n'est pas ça, on va vous poursuivre vos contrefaçons. La contrefaçon, c'est puni par la loi.
Tout à fait. Non, venons en Haïti. On n'a pas encore en Haïti de cas similaires, de cas de plagiat en Haïti pour votre protecteur.
Bon, il y a des peurs d'être. Il y a des risques certes de contrefaçon quand on publie, il y a surtout des peurs qui sont exprimées, mais quand est-ce qu'on parle de plagiat, quand est-ce qu'on parle de contrefaçon? C'est quand que l'institution critique est établie. Ça veut dire un livre, et bien celui qui va commenter ce livre, il en a lu des tonnes. Il peut remonter rapidement pour dire bon, voilà, par exemple, je viens d'écouter la chanson que vous avez écrite.
Donc, là, il a
et ça rappelle étrangement. Oui, mais il a appelé tout et c'est un maïmi. Ok, donc, maintenant. Quand le livre, vous distribuez le livre aux journalistes, aux critiques, et dès l'institut, on va voir, bon, là, ça rappelle telle chose, et ou bien tel personnage, il faut quoi, tel personnage.
Par exemple, dans la revue de littérature, le quatrième numéro, on a traité de la question, il y a un texte qui rappelle tel autre.
Oui.
Par exemple, le texte sur écrire les ruines de la littérature du Duvalier. Et les taux croisés de Marielle Ali, Célie Alina et Yves Nicolas. Donc, deux romans qui se semblent tellement.
Alors, il y a l'invertissement qui n'est pas du plagiat.
Oui, on en a parlé dans le texte. Écrire les lignes de la dictature de Duvalier, Marielle Célie Alina et Yves Nicolas. Anti-intertextualité et plagiat. Donc, il y a aussi le cas de Saison Sauvage, La Mal-Aimée, entre accusation de plagiat et intertextualité. Dans l'autre sens, c'était hypertextualité et plagiat, ici c'est plagiat et intertextualité. Accusation de plagiat et intertextualité. Donc, c'est un numéro, j'invite les auditeurs de la presse disponible à se procurer. Et pour pouvoir avoir beaucoup plus d'idées sur la question. Eh bien, nous acheminons vers la fin de l'émission, puisqu'il est déjà 5 minutes. Il nous reste tout simplement à remercier Edouard pour la réponse favorablement à notre invitation. Merci, Guillaume.
Merci, Guillaume.
Merci à vous aussi, chers fidèles compagnons et compagnes de l'Union, qui nous auront certainement la possibilité de revenir sur cette question avec Wilhelm Edouard dans les prochaines émissions. Il y a un petit peu de Wilhelm Edouard, votre Wilhelm, la présentation sur le Wilhelm Edouard de Sucre, l'Union de Riverstown. Je rappelle que Livre Neuf est une émission proposée par la radio Magic Neuf en partenariat avec la Rose Lady Illustration et aussi le livre de la DLM, section nationale de l'Illustration. Allez, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain pour une autre émission.